Bonjour à tous et à toutes, Dieu vous bénisse, ça nous fait plaisir hein, toujours d'être ensemble, de se retrouver pour louer le Seigneur, pour chanter ses cantiques, pour se réjouir dans sa présence. C'est vrai que quand on se retrouve entre frères et sœurs, c'est un coin du ciel, c'est déjà une espérance de la gloire, hein, d'être déjà dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est quelque chose, hein, le cantique que j'aime beaucoup, hein, je verrai ta face, oh quel ravissement. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir compter sur le Seigneur. Et puis ce matin, j'avais un texte biblique à vous lire qui se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Et nous allons lire les six premiers versets. Apocalypse, chapitre 3, les six premiers versets. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je rectifie parce que j'ai tellement l'habitude. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Je voudrais te préciser quelque chose sur disons, les sept églises de l'Apocalypse. Il y a sept messages qui sont donnés à sept églises. Mais en général, on dit que ce sont sept époques de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que l'église d'Éphèse, c'est la première église, l'église apostolique, et puis au fur et à mesure jusqu'à l'église de Laodicée, qui est la dernière. Et comme nous considérons que nous sommes à la fin de l'époque de l'église, eh bien, Laodicée, c'est notre époque. Je ne suis pas contre, absolument, mais je ne suis pas pour. Parce qu'il y a des millions de chrétiens qui souffrent pour leur foi et qui sont loin d'être l'église de Laodicée. Si on dit que nous sommes l'église de l'Odyssée, c'est notre problème. Mais nous ne représentons pas la majorité de l'église. Il y a des multitudes qui sont plutôt l'église de Smyrne que l'église de l'Odyssée. Et ils souffrent pour leur foi et ils sont mis à mort chaque jour pour leur foi. Et quand on voit le dimanche dernier, on a vu ce rapport de persécution, 4 000. Vous savez que 4 000, c'est plus de 10 chrétiens tués par jour, hein, dans une année. C'est quand même beaucoup. Ce n'est pas rien. Et cette église-là ne peut pas me faire on ne fera pas croire que c'est l'église de Laodicée. C'est l'église persécutée, l'église de Christ, l'église fidèle, l'église qui verse son sang par amour pour Christ. Donc, j'ai eu deux autres possibilités. C'est que la première représente des mouvements chrétiens, où il y a des chrétiens nés de nouveau. Et dans ces mouvements, eh bien, il y a des choses à reprendre. Voilà. Alors, certaines églises, la nôtre peut être l'église de Laodicée, mais elle peut être aussi l'église de Philadelphie. Hein, je vous conseille beaucoup. L'église de Philadelphie, c'est la meilleure. Il n'y a pas une meilleure église que celle-là. Décidez d'être l'église de Philadelphie. C'est l'église de l'amour fraternel. Et si vous voyez ce que le Seigneur dit, hein, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est une promesse magnifique, immense, hein. Alors je vous dis, hein, c'est celle-là qu'il faut être. Et puis, sans être un groupe, eh bien, je pense que chacun peut s'identifier dans une église et se dire, moi, je suis plutôt Sardes, je suis plutôt Laodicée. je suis plutôt ceci ou cela. Et comme chaque chrétien est la plus petite fraction de l'Église, eh bien, vous pouvez vous dire, moi je suis ceci ou cela, et voir ce qui est à rectifier, à réformer dans votre vie. Et ce matin, en lisant ma Bible, j'ai lu de nouveau l'Église, ses lettres aux sept Églises, et je me suis rappelé un jour où j'étais dans une réunion. C'était une réunion qu'avait réuni un pasteur parce qu'il formait ceux qui président les cultes. Alors, il leur faisait une fois par mois, il y avait tout un samedi, depuis le matin jusqu'au soir, des études. Et ils étudiaient. Là, quand un jour je suis allé voir un peu comment ça se passait, eh bien, c'était l'Apocalypse. Et on a lu en particulier les sept églises, et j'étais un de ceux qui a lu. Et voilà. Et alors j'ai lu ce passage que je viens de vous lire sur l'église de Sardes. Et le Seigneur m'a parlé. Et alors, vraiment, j'ai été repris dans ma conscience, fortement repris. Et vous savez ce que le pasteur a dit? Si le Seigneur a parlé à l'un d'entre vous, j'aimerais bien qu'il dise ce que le Seigneur lui a dit. J'aurais aimé qu'il pose tout à fait une autre question. Et alors, bon, ben, comme je ne pouvais pas dire, hein, le Seigneur m'avait parlé. Et voilà ce qui j'ai dit ce qu'il a dit. Et il a dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Et j'étais fortement repris. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Il y a des multitudes d'actions que l'on fait comme comment dire, comme nous sommes dans un rôle. Voilà, nous sommes au théâtre où nous sommes des acteurs d'un film de cinéma et nous accomplissons des actions par des rites, par des manières de faire, par des manières d'être, et nous agissons d'une certaine manière, et on prie, et on lit notre Bible, on vient à des réunions, on témoigne même, on a des multitudes d'actions qui sont vides, qui sont mortes. C'est le cœur n'y est pas. On n'aime pas le Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Vous savez, le cantique que l'on a chanté, le dernier, est un de mes cantiques favoris, hein. Je verrai ta face, quel ravissement. Il y a un jour où nous allons rencontrer Christ face à face. Nous allons le voir tel qu'il est. Est-ce que ce jour vous passionne? Est-ce que vous dites, ah, quand est-ce que je vais voir mon Seigneur Jésus face à face et je serai semblable à lui pour l'éternité? Alors que nous sommes tellement accaparés par ce monde, par les soucis de ce siècle, et quel est le dernier film, et quelle est la dernière aventure qui va y avoir ceci ou cela, et on parlait d'élections, il y a des élections, et quel est le candidat qui va être élevé, je vais vous dire. On s'en préoccupe dans une certaine mesure, parce que nous vivons à une époque et sur un certain sol, hein. Mais je peux vous dire, il y a beaucoup mieux, il y a au-delà de tout cela, mon Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Pour moi, j'étais un pécheur, j'étais perdu, et il a souffert pour moi. Il a tout donné pour que je puisse être sauvé. Et moi, je l'aime si peu. Et je m'inquiète, ah, est-ce que je vais avoir suffisamment de ceci ou cela? Et où vais-je passer mes vacances? Je ne vous dis pas que je n'aimerais pas que vous passiez vos vacances. Mais on se préoccupe de tellement de choses qui sont futiles, qui sont si petites. Et il y a des choses qui sont si grandes. Tu passes pour vivant et tu es mort. Parce que la mort, c'est par rapport à quelque chose, c'est par rapport à quelqu'un. C'est la mort dans la Bible, ce n'est pas cessé d'exister. Ce monde nous laisse entendre que quand on est mort, eh bien, on n'existe plus. Mais pas du tout. La mort, c'est un changement de situation. La mort, c'est par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Vous vous rappelez la parabole du fils perdu? Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il n'avait pas cessé d'exister, il était loin de son père. C'est parce qu'il était loin que son père disait et a pu dire il était mort. Et maintenant, il est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'il est revenu à son père. Il était vivant pour son père. Et nous pouvons, Paul disait aux Galates, je suis mort par rapport au monde, comme le monde est mort par rapport à moi. Et il pouvait dire, je suis crucifié. Ces choses-là n'existent plus pour moi. Elles étaient là. Il les vivait. Il était au milieu d'elles. Mais il y a une mort par rapport à ces choses. Il y a une séparation. Ces choses-là ne prennent pas l'importance que nous leur accordons, parce qu'elles n'ont pas vraiment d'importance. Elles sont tellement relatives, tellement limitées dans le temps. Elles sont juste pour une période. Un jour, tout cela va disparaître. J'ai lu certaines choses, hein, certains écrits du XVIIIe siècle, cette semaine, et je me suis dit, mais il y a des gens qui ont cru à tout ça. Et aujourd'hui, nous nous disons, mais c'était fou. Comment ont-ils pu croire à ces choses-là, à des pareilles bêtises, à des choses qui étaient aussi insensées que ça? C'est le siècle change, les mondes changent, tout est bouleversé, tout est changé. Ce qui est vrai aujourd'hui dans ce monde ne sera pas vrai demain. Les choses qui passionnent aujourd'hui, les gens vont dire, mais ils sont fous d'avoir cru à ça. C'est la mode des pantalons qui tombent. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose en passant. Je me dis, tiens, les pantalons vont être comme ça maintenant. Et un peu tordus. Et puis, je me dis, ah bah attention, la mode va être pire qu'elle était avant. Mais les gens qui s'habilleront à la mode d'aujourd'hui l'année prochaine, on va dire, enfin, quand même, hein, il n'a pas tout compris, hein. Il s'habille encore comme l'année dernière. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain dans ce monde. Et je peux vous dire, la figure de ce monde passe, change. Et si vous n'êtes pas mort par rapport à ces choses, si vous n'êtes pas vivant pour autre chose d'éternel, de durable, qui ne change pas, vous êtes malheureux. Parce que votre vérité est appelée à changer et à disparaître. C'est la vérité de ce monde, la figure de ce monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est une grande vérité, c'est une puissante vérité. Tu passes pour vivant et tu es mort. Je voudrais vous lire le dernier verset que j'ai eu du mal à lire tout à l'heure. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, la question se pose, nous avons nos oreilles complètes, nous ne sommes pas sourds. Alors la parole de Dieu nous dit, et de plusieurs manières, hein, je me suis trompé tout à l'heure parce que je le connais d'une autre manière, mais dans ce passage, il y a une question, vous avez des oreilles? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable d'entendre? Mais est-ce que vous avez des oreilles spirituelles, de bonnes oreilles? Est-ce que votre acuité acoustique est bonne? Est-ce que vous entendez bien ce que vous entendez spirituellement? Alors, si vous êtes capable d'entendre, alors entendez ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que l'Esprit dit aux églises, eh bien, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Et nous devons nous poser la question, pour qui je suis vivant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me captive, qui me prend, qui prend toutes mes pensées, qui prend la plupart de mon temps? Qu'est-ce qui prend? En fait, un jour, et je vous l'ai dit, je ne sais combien de fois, et je le fais hein, pour moi personnellement, arrêtez-vous. Arrêtez-vous dans ce monde qui court, qui va dans tous les sens, et posez-vous les vraies questions. Pourquoi je vis? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui remplit mes pensées? Qu'est-ce qui est ma préoccupation principale? Après, je vous dis, il y a la vie de tous les jours, et je peux dire, il y a du travail qui préoccupe, et on ne peut pas dire que quelqu'un qui fait bien son travail, qu'il est un mauvais chrétien. Parce que la parole de Dieu nous encourage à accomplir son travail comme il faut. Il y a des études qui sont faites, vous faites des études, vous êtes des étudiants, vous apprenez des choses, vous devez y consacrer du temps, sinon vous n'allez pas réussir. La parole de Dieu nous dit qu'il faut faire bien ce que nous faisons. Mais il faut savoir où est notre cœur. Où est-ce que le Seigneur Jésus prend la première place? Où est-ce que c'est ceci, ou cela, ou ça? Et est-ce que si le Seigneur Jésus vous arrête, vous êtes capable de lui obéir et de changer vos plans et de dire non, le Seigneur m'indique plutôt cette direction-là. Mais il faut savoir exactement où vous allez. On marche avec le Seigneur Jésus-Christ. On vit pour lui. On est consacré à lui. Notre amour pour lui doit dépasser tout autre amour. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui surpasse tout. Vous pouvez tout perdre. Vous ne pouvez pas perdre Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui sont en prison, qui souffrent. Ils n'ont rien, même pas à manger, même pas suffisamment à manger. Mais ils ont Christ dans leur cœur. Et ils sont parfaitement heureux. Et même ils sont plus heureux que nous. Ils ont une paix, une joie dans leur cœur qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Parce que c'est Jésus-Christ qui comble un cœur, qui remplit le vide de notre cœur. C'est lui seul qui peut remplir ce vide. Vous pouvez posséder le monde entier, vous pouvez avoir toutes les réussites possibles, vous pouvez avancer avec assurance dans ce monde. Si Jésus-Christ est absent de votre vie, vous serez malheureux, vous serez triste. C'est cette constatation que nous devons faire. Nous devons nous rappeler, nous devons nous arrêter et dire: Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées, vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est quelque chose, vous savez, de s'arrêter et de prendre en considération certaines choses, de prendre la mesure de notre vie chrétienne. Jusqu'à quel point j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je la donne un peu, ou je la donne pas mal, ou je la donne presque toute, ou Christ est toute ma vie, il est toute ma joie. Que ce soit pour vivre, pour mourir, pour faire ceci ou pour faire cela, que ce soit riche, que ce soit pauvre, que ce soit médiocre, que ce soit complet, que ce soit approuvé du monde ou désapprouvé du monde, de toute manière, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour moi. Mon Seigneur Jésus-Christ, pour lequel je renonçais à tout, et je regarde toute chose comme une perte pour gagner Christ. C'est Paul qui le disait aux Philippiens. C'est pas moi qui, c'est pas de mon propre cru. Mais combien je souhaite et combien je désire pour ma propre vie que ce soit la vérité. C'est Christ, tout, qui prend toute la vie. C'est savoir pour qui nous sommes vivants et pour qui nous sommes morts. C'est pour cela que tu passes pour vivant et tu es mort. Si vous êtes vivant pour le monde, vous êtes mort par rapport à Christ. Si vous êtes vivant pour Christ, vous êtes mort par rapport au monde. C'est comme une balance, vous savez. Si vous chargez un plateau, l'autre plateau monte. Si votre balance est une balance, hein, si c'est différent, ce n'est plus une balance, c'est autre chose. Mais dès que c'est une balance, eh bien, si vous mettez un certain poids dans un plateau, eh bien, il fait lever l'autre. Et si vous mettez Christ tout entier dans votre vie, vous n'avez plus de place pour le monde. C'est au fur et à mesure, vous dites: non, ma vie, c'est Christ. Les priorités, c'est Christ. Ma joie, mon bonheur, c'est Christ. Et combien ce monde essaye de nous prendre. Ce monde est un voleur de paix, un voleur de joie, un voleur de présence de Christ. Il essaye de nous convaincre combien c'est important, combien ce que vous voyez là vous a manqué. Vous ne saviez pas que ça existe, hein? Mais brusquement, vous le voyez, vous dites: mais comment est-ce que j'ai pu vivre sans micro-ondes? Comment est-ce que j'ai pu vivre sans four à chaleur tournante? Comment ai-je pu vivre sans cette voiture qui est ceci et cela? Et comment ai-je pu... Mais ce monde est convaincant. Mais c'est Jésus-Christ qui est notre vie. Ce ne sont pas ces choses. Après, je ne les condamne pas, hein. Vous avez un micro-ondes, très bien, c'est tant mieux pour vous. C'est même, je crois que la plupart des gens se simplifient la vie avec ça. Je n'ai rien à condamner. Mais ce monde nous présente ses futilités comme étant d'une importance capitale et qu'il faut consacrer sa vie, il faut y mettre toute son énergie pour les posséder. Alors que si nous mettions le quart de l'énergie que nous mettons pour posséder ces choses pour gagner Christ, eh bien, il y a longtemps que nous l'aurions trouvé. Parce que ce monde est avare. Il nous donne en petite quantité. Il faut vraiment, excusez-moi l'expression, se décarcasser pour arriver à obtenir les petits biens de ce monde. Alors que le Seigneur Jésus, en quelques minutes, il peut prendre toute la place dans votre vie. Il s'agit simplement de lui dire: Seigneur Jésus, prends toute la place. Je renonce à tout. Je mets tout dans ta présence. Tout, je renonce à tout. C'est toi que je cherche plus que tout. Je ne désire personne d'autre que toi. Je pense que si nous nous posons cette question, si nous nous demandons, est-ce que je suis vivant ou est-ce que je suis mort? Pour qui je suis vivant, pour qui je suis mort? Eh bien, la réponse, nous l'avons dans notre cœur. Je ne vous demande pas de lever la main ou de dire quoi que ce soit, mais au fond de vous-même, si vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis vivant pour Christ? Ou est-ce que je suis vivant pour le monde? Est-ce que le monde prend tant de place dans ma vie? Est-ce que la réponse, peut-être, vous l'avez? Et je suis persuadé que vous l'avez. Et au fond de vous-même, vous dites, ma vie est consacrée à des choses inutiles, à des vanités, alors que Christ, je suis en train de le manquer complètement. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de chrétiens. Et je peux vous dire, ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup que vous devez être dans la masse de tous ceux qui sont morts par rapport à Christ et vivants par rapport à ce monde. Et alors, je connais tes œuvres. C'est celui qui a les regards hein, comme une flamme de feu. Je connais tes œuvres. Je sais tout sur toi. C'est pas moi qui vous le dis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vous regarde et il vous sonde. Et il dit, je connais tout sur toi. Tout ce que tu caches, tout ce que tu crois que personne ne sait, moi je le sais. Rien n'est caché, rien n'est secret devant celui à qui nous devons rendre compte. Je connais tes œuvres, je sais. Il ne dit pas, je suis presque sûr. Non, c'est une absolue certitude. Je sais. Et il le sait. Et vous savez qu'il le sait. Et que vous ne pouvez pas lui jouer la comédie. Et qu'il a vu jusqu'au fond de votre cœur. Il a vu même les sentiments les plus secrets, les choses que vous ne vous avouez même pas à vous-même. Eh bien, lui, il les connaît. Et il les connaît mieux que vous-même. Il les a sondés jusqu'au fond. Et même, il en connaît la fin. Alors, il nous donne une recommandation. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Parce que quand on a commencé ce chemin, eh bien, on le poursuit jour après jour, désobéissance après désobéissance, tiédeur après tiédeur, on avance jusqu'à ce que on soit complètement mort par rapport aux choses spirituelles. Je connais plusieurs personnes, malheureusement, que j'ai connues dans mon ministère, qui étaient au début de leur vie chrétienne, oh, des chrétiens et des chrétiennes bouillants pour le Seigneur, hein. Vraiment, vous ne les auriez pas sortis d'une réunion. Mais aujourd'hui, ils peuvent manquer le culte, ils peuvent manquer les choses essentielles, ils peuvent se soucier de futilité, ils peuvent parler des choses de ce monde. Et si vous dites, mais oui, mais tu sais, il y a une réunion là où, tu sais, il faut prendre et en laisser. Je me rappelle de ce chrétien. Chrétien, hein, excusez-moi, peut-être qu'il n'est pas. Mais c'était dans une librairie évangélique. Alors il a dit, moi, je vais dans l'église qui me fait plaisir. La parole de Dieu dit, ne devenez pas, vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas les esclaves des hommes. Alors il avait trouvé un bon prétexte pour être un vagabond d'église, pour aller à droite et à gauche, pour ne jamais se fixer. Il avait trouvé un prétexte, voilà. Peut-être qu'à un moment, il a été un bon chrétien, il a été fidèle, il a été zélé, mais de chute en chute, de désobéissance en désobéissance, il s'est éloigné. Le reste qui est prêt de mourir. Et il n'a pas fait attention, et j'espère qu'il est revenu à lui-même, cet homme-là. Mais je connais d'autres qui étaient des chrétiens vigilants et bouillants, et qui aujourd'hui vivent une vie de débauche. Je connais une dame en particulier. Elle ne va plus dans aucune église. C'est même pas la peine de lui parler de l'église. Et pourtant, qu'est-ce que c'était une chrétienne fidèle, zélée, consacrée au Seigneur, qui avait renoncé à tout, qui vivait vraiment pour Christ, hein, je peux vous dire. Mais un jour, le monde est entré dans son cœur. Oh, le jeune homme, il était beau. Ah oui. Et puis, il était merveilleux, vous savez. Il aimait beaucoup. Il abandonnait sa femme et sa fille pour elle. À quelle preuve d'amour quand même, hein. Ah oui. Elle a dit, mais je vais pouvoir lui annoncer l'évangile à cet homme. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux annoncer l'évangile à sa femme et à sa fille? Parce que peut-être que lui annoncer l'évangile à lui, c'est bien, mais c'est mieux à toute la famille. C'est et de chute en chute. Et aujourd'hui, je ne vous dis même pas dans quel débauche elle est. Mais les gens descendent et descendent et descendent et au plus profond parce que un jour on a aimé quelque chose plus que Christ. Faites attention à ce qui captive votre cœur. C'est le monde, Satan, c'est un ange de lumière, vous savez. Il se présente pas toujours comme un diable cornu. Il se présente comme un ange de lumière, bien séduisant, bien trompeur. Et l'erreur dans laquelle il veut vous emmener, qu'est-ce qu'elle semble crédible? Qu'est-ce qu'elle peut vous enthousiasmer? Mais c'est l'erreur quand même. Et c'est quelque chose, c'est diabolique. Mettez cela de côté. Choisissez la vie. Renoncez à la mort. Mettez de côté ces choses. Parce que de chute en chute, vous descendez l'escalier jusqu'au fond. Rappelle-toi maintenant, c'est le verset 3, donc maintenant, comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu ne sauras pas. Vous pouvez faire tous les pronostics que vous voulez. Il viendra à l'heure que vous attendez pas, parce que vous n'êtes pas vigilant. C'est ceux qui savent à quelle heure, c'est parce qu'ils sont vigilants. Mais ceux qui ne sont pas vigilants, je peux vous dire, ils ne sauront pas. Ils sont complètement aveugles et ils sont sourds. Ils ne peuvent pas savoir. Et alors, le jour où le Seigneur vient, eh bien, il se dit, mais je suis parti? Eh oui, tu es parti. Tu as quitté ce monde que tu aimais beaucoup. Tu as perdu tes racines. C'est comme ces mauvaises herbes, vous savez, on les enlève de terre et vous dites, mais il y a les racines qui sont restées. Et c'est comme cela. Beaucoup de chrétiens vont partir et on va laisser leurs racines dans ce monde. C'est quelque chose. Parce qu'ils sont agrippés à ce monde. Ils l'aiment tellement. Tandis que celui qui a mis toute son espérance en Christ, qui regarde à Christ et qui s'attache à Christ, le jour où il faut partir, eh bien, il dit, Seigneur, je suis prêt. Prends-moi, je t'appartiens, je suis ton enfant. J'ai renoncé à tout et maintenant, eh bien, je suis prêt à revenir à toi. Ce ne sont pas des paroles de jugement que j'ai voulu prononcer ce matin. Ce que je vous ai dit, ce sont des avertissements. Ce sont des choses que j'ai voulu rappeler à votre mémoire et vous dire, le Seigneur est proche. Que ce soit tôt, que ce soit tard, un jour, le Seigneur va revenir. Et va nous enlever avec lui. Si le Seigneur tarde des années encore, plusieurs d'entre nous seront partis et auront rejoint le Seigneur Jésus-Christ. Comment allons-nous le rencontrer face à face? Avec assurance, avec amour ou avec honte, avec tristesse? Et alors, ce moment où nous allons le voir face à face, tout va se démasquer. Toutes vos illusions, tout ce qui vous a perturbé, tout ce qui vous a captivé, toutes ces choses-là, elles vont prendre leur réalité et vous allez voir combien elles étaient vaines, combien elles étaient mortes et combien elles étaient temporaires. Et que ce qui était éternel, ce qui durait pour toujours, eh bien, vous ne l'avez pas favorisé, vous ne l'avez pas cherché. Et vous êtes arrivé pauvre, aveugle et nu. Ah, oh ben ça, c'est l'église de la Odyssée aussi, hein. Mais arriver dans la présence de Dieu, en se disant, mais qu'est-ce que je fais ici? Et le Seigneur Jésus va le dire, parce qu'il dit ici, hein, et je confesserai son nom devant mon Père. Celui qui s'est repenti, hein, d'être mort, quoique vivant. Et je le confesserai devant mon Père. Et il y a des personnes il va dire, je ne t'ai pas connu. Tu ne m'as pas connu. Mais moi, je ne t'ai pas connu. Et je peux dire, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Hein, Stéphane? Vous savez, c'est comme quand vous jetez une pierre dans l'eau. Hein. Il y a le centre, il y a la périphérie. Et plus on s'éloigne du centre, et plus ben, on est loin. Et il y a des personnes qui vont se tenir à la périphérie. Tandis que d'autres, le Seigneur va dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Prends possession du royaume qui a été préparé. C'est, je peux vous dire, quelle joie immense quand le Seigneur Jésus dira, regarde sur nous, entre dans ma joie, participe à mon règne. Alors que nous, ceux qui sont morts, quoique vivants, ils n'ont pas aimé le règne, ils n'ont pas aimé la gloire de Dieu, ils n'ont pas recherché passionnément les choses spirituelles. Le Seigneur Jésus va leur dire, mais tu ne les as pas aimés pendant ta vie. Tu vas en être éloigné pendant l'éternité. C'est notre place dans le ciel. Elle dépend de ce que nous avons vécu sur cette terre. C'est pour cela que je vous avertis. Ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, du jugement ou de la condamnation ou quoi que ce soit. Mais je vous le dis avec amour, mes frères et sœurs, soyez vigilants. Revenez à vous-même. Faites attention. Si vous êtes sur un mauvais chemin, revenez dans le bon chemin. Il n'y a pas de meilleur chemin que Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Revenez à lui, regardez vers lui. Ne laissez aucun repos à votre vie tant que vous n'êtes pas pleinement revenu à lui et tant qu'il n'a pas pris toute la place qu'il doit prendre dans votre vie.
Chanter le dernier cantique qui s'appelle Persévère, que j'ai découvert avec toi, Romuald. Je vais te demander de bien vouloir venir avec moi pour le chanter.